Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Ce week-end s'ouvre la nouvelle édition du Salon de l'Agriculture à Paris. La Chambre d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes sera bien sûr présente pour représenter notre région. Avec nous cette semaine, Jean-Claude Darlet, président de la Chambre d'Agriculture de l'Isère, membre du bureau de la Chambre d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes agriculteur dans le canton de Saint-Marcellin, producteur de noix de Grenoble bio et de céréales. Comment appréhendez-vous le Salon de l'Agriculture cette année ?
Je dirais que comme toutes les années, c'est un rendez-vous très important pour l'agriculture française, mais aussi pour l'agriculture de nos territoires, parce que c'est le moment justement où on est en relation directe avec le citoyen, le consommateur, et cela permet réellement de faire passer des messages, notamment sur tout ce qui est d'actualité actuellement. On parle beaucoup d'alimentation, donc de redire que l'agriculture est le pourvoyeur de produits alimentaires, et cela est très important, et de redire que ces produits alimentaires, quand ils quittent les exploitations, doit avoir une valeur, et que cette valeur-là rémunère l'agriculteur, bien entendu pour payer ses charges, mais aussi donc pour qu'il en retire un revenu qui constitue son salaire.
Pourquoi c'est important pour vous, agriculteur, de le dire directement aux consommateurs ?
Parce que souvent, par le biais des médias, mais bon, qui sont importants, ce message, des fois, il peut être orienté en disant, de toute façon, on parle beaucoup d'agriculteurs pollueurs, d'agriculteurs qui produisent, qui intensifient, d'agriculteurs qui touchent des subventions. Donc de temps en temps, de dire que tout d'abord, l'agriculteur travaille avec du vivant, que ce soit des productions animales ou végétales, que ces produits, il les façonne un peu comme un orfèvre avec de l'or, hein, et qu'il en sort un produit de très très bonne qualité, et avec ce produit-là, donc, il nourrit l'ensemble des citoyens, parce que ça, on l'avait un peu oublié. Souvent, ce produit passait par de l'industrie agroalimentaire qui était transformée. Et souvent, tout consommateur en perdait quelles étaient les origines. Et que derrière tout cela, il y avait des hommes et des femmes qui travaillaient tous les jours pour le produire. Et que, on en est arrivé ces dernières années. Est-ce que ce produit étant avec une valeur de temps en temps sur des marchés mondiaux qui n'avait plus de valeur. Donc, plus de valeur, plus de reconnaissance. Et ce qui fait qu'un peu une méfiance de ce que faisaient les agriculteurs.
On a l'impression depuis plusieurs années, en tout cas, c'est une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur, que les consommateurs reviennent de plus en plus vers l'agriculteur. C'est une tendance que vous ressentez, vous, aujourd'hui, dans l'Isère ?
Dans l'Isère, même en région Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes, déjà depuis de nombreuses années, on développe tout ce qui est circuit court, donc avec des ventes directes aux consommateurs. En plus, on a la chance d'être sur un bassin de consommateurs important. Une nouvelle région, donc avec pratiquement 8 millions de consommateurs, mais quand on est déjà, moi comme dans le département d'Isère, c'est pratiquement 1 300 000 consommateurs. Donc déjà, on a redéveloppé cette vente directement aux consommateurs et on voit que petit à petit, le nombre de consommateurs augmente. Il y a une volonté aussi des consommateurs de savoir quelles sont les origines des produits, d'où ils viennent, d'avoir vraiment ce lien produit et territoire. C'est quelque chose qui revient d'actualité. On a tellement banalisé ces produits alimentaires qu'aujourd'hui, ils ont besoin de connaître un peu quel est le sens, comment ils sont produits, sur quelle région, sur quel territoire, avec quel agriculteur, quelle agricultrice. Donc, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui augmente petit à petit. Alors, pour moi ou pour nous, agriculteurs, peut-être pas assez vite, parce qu'il y a encore quand même plus de 90% de consommateurs qui vont régulièrement acheter leurs produits alimentaires en grande surface. Et c'est même pour ça qu'aujourd'hui, les grandes surfaces aussi font le pas pour aller aussi sur des produits fermiers, pour même identifier des producteurs dans leurs magasins, parce que c'est quelque chose donc qui, aujourd'hui, augmente petit à petit.
On a parfois l'impression que les agriculteurs et les grandes surfaces sont dos à dos. C'est un combat que vous menez contre les grandes surfaces aujourd'hui ?
Je dirais que c'est un combat qu'on mène face aux grandes surfaces, mais face aussi à l'industrie agroalimentaire, pour tout simplement. Et c'était l'un des chantiers importants des états généraux de l'alimentation. C'est réellement redonner une valeur, redonner une répartition de la marge entre tout le monde. Que le producteur, que le transformateur et le commerçant, chacun puisse vivre de ce qu'il fait, vivre de son métier, honnêtement. Donc l'agriculteur n'en demande pas plus. C'est pour ça que quand des grandes surfaces disent « De toute façon, nous, on veut toujours vendre le moins cher possible », au bout d'un moment, le moins cher, qui en paye les conséquences ? Ça reste aujourd'hui le producteur. Donc il faut se dire que tel produit, par exemple un litre de lait, a une valeur. Cette valeur, elle va d'une valeur minimum pour l'exploitant qui le produit, une valeur pour le transformateur qui va le mettre en bouteille ou qui va le transformer en fromage ou en yaourt, et une valeur au commerçant qui va le mettre en vente au consommateur. Sans pour cela que le consommateur ce soit le seul qui paye les conséquences de tout ça. Mais c'est comment on répartit honnêtement les marges entre tout le monde.
Vous, aujourd'hui, quelle est votre situation? Est-ce que vous arrivez à vivre décemment de votre activité?
Alors moi, j'ai de la chance d'être sur une production qui est la noix de Grenoble. Je suis en agriculture biologique aussi. C'est aujourd'hui un fruit sec qui est à la mode, donc au niveau des consommateurs. Et aujourd'hui, j'ai un prix qui est rémunérateur, oui, tout à fait. Mais quand je me compare avec mes voisins producteurs de lait, qui aujourd'hui, eux, vendent leur lait à un prix qui rémunère à peine les charges qu'ils engagent pour le produire, donc ils n'en vivent pas, ou ils en vivent difficilement. La différence, elle est là. Mais cette différence, elle est due aussi à une politique agricole commune qui devait servir justement, par la PAC, à limiter ces écarts entre un prix mondial et un prix, réellement, un coût de production vraiment sur les exploitations. Parce que c'était une aide à la compensation. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que cette aide à compensation n'est pas suffisante et ne compense pas cette différence d'un prix mondial avec un coût de production français.
Finalement, c'est quoi la solution aujourd'hui? C'est de subventionner davantage les agriculteurs?
Non, surtout pas. C'est donner un prix réel et juste à tout produit qui quitte l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, puis je prends l'exemple du litre de lait, un prix rémunérateur, c'est pas de passer à environ 30 centimes aujourd'hui le litre, ce qu'il est payé à un agriculteur, à 80 ou 1 euro le litre. Non, aux environs de 40 et 45 centimes le litre, payé au producteur, il pourra vivre de son métier. Donc on n'est pas à demander des choses extravagantes ou irréalisables. Pareil quand on parle de fruits ou de légumes, c'est la même problématique, tu vois. C'est comme quand on parle aussi de céréales et de blé. Quand on voit la proportion de blé utilisé pour faire du pain, aujourd'hui c'est insignifiant, c'est plutôt que tout ce qu'il y a entre la farine et la fabrication du pain qui coûte le plus cher, c'est pas le blé. Tu vois.
Aujourd'hui, vous pensez que les consommateurs seraient prêts à passer ce pas, de payer un peu plus cher, en sachant que les agriculteurs seraient mieux rémunérés?
Je pense qu'une proportion, oui. Peut-être pas tous. C'est vrai que quand des foyers sont en grande difficulté, de demander encore un peu plus pour payer l'alimentation, ça sera peut-être compliqué. Mais aujourd'hui, quand je vois que le prix de l'alimentation dans le budget moyen d'un foyer français est proche de 10% actuellement, ben je pense qu'après, on doit aussi faire des choix. Bien manger, mais en restant dans des choses correctes. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs souvent une bonne santé. Mais des fois, il y a des foyers qui font plus le choix de la téléphonie ou de l'informatique ou d'un tas d'abonnements à différents réseaux qui coûtent beaucoup plus cher que ce qu'ils mettent dans l'assiette.
Il faudrait quoi aujourd'hui? Il faudrait une vraie volonté politique pour que ça change?
Oui, moi je pense que ce qui a été annoncé par le président Macron avec les états généraux de l'alimentation, il faut aller au bout. Et que réellement, il y a une répartition juste des choses. Et puis que ce soit même affiché dans les commerces. En disant, ben voilà, quand vous achetez un kilo de pommes de terre, eh bien sur ce kilo, eh bien, il y a tant de centimes qui va au producteur. Il y en a tant pour ceux qui vont le mettre en filet ou le transformer parce qu'il va aller la laver, l'éplucher, ou voire même aller jusqu'aux frites. Et puis, il y a temps pour ceux qui le mettent sur les halles à la vente. Donc voilà, mais si on était transparent là-dessus, je pense que tout à chacun pourrait le comprendre.
Et quelles sont les autres grandes décisions de ces états généraux que vous attendez aujourd'hui dans la mise en œuvre, se fait attendre?
Ça, c'est, la première partie, c'était la répartition justement des marges entre les différents secteurs. Donc ça, nous espérons que la loi va sortir et qu'elle ira dans ce sens-là. La deuxième partie, il y a toute la problématique alimentation et santé. Donc là aussi, on a besoin de connaître comment ça va évoluer. Il y a toute la problématique protection des cultures, des protections des animaux qui y sont liées. Mais il y a aussi quelque chose qui, pour moi, est essentiel. C'est tout ce qui est la recherche, l'expérimentation. Parce que nous devons aujourd'hui ne pas s'arrêter à chercher, à voir, bah, par exemple, demain, pourquoi pas produire des produits, que ce soit en animaux ou en végétaux, avec peut-être moins besoin d'utilisation de produits chimiques, quels qu'ils soient. Donc, mais ça veut dire c'est qu'il faut peut-être qu'on recherche d'autres choses, d'autres méthodes, d'autres variétés. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a aussi de lier à cela tout le volet formation. On a besoin demain d'avoir, que ce soit des agriculteurs, du moins pour renouveler nos actifs, mais aussi des salariés, de mieux en mieux former, parce que c'est de plus en plus compliqué de diriger une exploitation, même aussi de travailler sur des exploitations.
Il y a une crise des vocations aujourd'hui dans l'agriculture?
Non. Par chez nous, les centres de formation agricoles recrutent encore un nombre important de jeunes. Il y a même une demande de reconversion professionnelle importante dans ce milieu-là. Simplement, c'est que il faut que ceux qu'on leur installe ou ceux qui vont reprendre des exploitations, on leur donne des perspectives sur l'avenir. Donc aujourd'hui, beaucoup vont sur la vente directe et circuits courts, mais on ne peut pas faire 100% d'installation de renouvellement dans cette orientation-là. On a besoin aussi de filières plus importantes. Donc c'est comment, dans ces différentes filières-là, on assure un avenir aux agriculteurs, mais aussi aux salariés qui y sont liés.
Vous êtes producteur bio. L'État devrait cesser normalement de verser des aides au maintien des agriculteurs bio. Est-ce que finalement le bio a été victime de son succès ?
Un petit peu, parce que je pense qu'on a on a sous-estimé que des agriculteurs pourraient se reconvertir de façon plus importante à l'agriculture biologique. On nous a pris un petit peu en disant, de toute façon, vous n'êtes pas capable d'aller dans cette orientation-là par rapport à une demande sociétale. Donc l'agriculteur ou l'agriculture en général a su s'adapter au fil du temps. À la sortie de la guerre, on a demandé qu'il fallait produire du denrées alimentaires en grande quantité parce que les gens sortaient d'une guerre et crevaient de faim. On l'a fait. Après, on a trop produit, on avait des surproductions. Donc on a su réduire et gérer cette surproduction avec la politique agricole commune, la dernière politique agricole commune notamment. Après, on nous a demandé qu'il faut produire autrement, donc notamment avec l'utilisation de moins en moins importante de produits chimiques et phytosanitaires et de s'orienter vers l'agriculture biologique parce qu'il y avait une demande sociétale. On l'a fait là-dessus, et aujourd'hui on est un petit peu contraint d'abord avec l'arrêt de l'aide au maintien en agriculture biologique. Alors, pour certaines filières, et moi ce que je défends, c'est qu'il faut que le prix compense cette aide au maintien, parce que c'est pas normal que l'agriculture doit toujours avoir des aides pour pouvoir simplement vivre de ce qu'elle fait. Donc ça c'est un premier point. Par contre, ce qui est plus grave, c'est le plafonnement aux aides à la reconversion. Donc peut-être que certaines filières, ça ne pose pas de problème, mais quand on est en reconversion, par exemple en production laitière, et il y a une attente importante sur le marché de plusieurs millions de litres de lait à l'agriculture biologique, eh bien pour se reconvertir, on a une triple peine. La production baisse, on a des coûts d'alimentation du troupeau qui augmentent, et on a un prix qui ne compense encore pas pendant la reconversion. Il faut être plus que croyant à ce que ça a bien marché très rapidement pour pouvoir le faire.
Vous parlez beaucoup de lait depuis tout à l'heure. C'est aujourd'hui une vraie problématique aussi ici, chez nous, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes.
Tout à fait. Alors, elle est différente suivant les départements. Les départements qui ont commencé à travailler sur la segmentation des marchés depuis de nombreuses années, je prends l'exemple des Savoies avec de petites fromagères, la valorisation par le fromage, comme le Jura par exemple aussi, ou la Franche-Comté. Non, eux vivent moins de difficultés que d'autres départements qui sont restés sur des standards très très globaux, avec pas de valorisation sur le produit transformé. C'est là qu'il y a les problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein de la profession, on retravaille justement sur comment resegmenter des marchés. Donc le lait en agriculture biologique en fait partie, mais aussi, pourquoi pas, avec un lait plus local, en vente directement en lait. Ça va être aussi le développement de signes de qualité sur certains fromages. On a un travail qui est en cours de réalisation sur Saint-Félicien notamment. Je dis bien Saint-Félicien vache, parce qu'il y a Saint-Félicien chèvre en Ardèche, mais qui là fait beaucoup directement en transformation directe sur les exploitations. Donc voilà, c'est parce que quand on reste sur des marchés très globaux, très type mondiaux, aujourd'hui dans des territoires comme chez nous en région Auvergne-Rhône-Alpes, ça devient difficilement rémunérateur pour une majorité d'exploitations.
Est-ce qu'on a des grandes caractéristiques, peut-être par département, sur l'Isère, sur l'Ain, sur le Rhône ?
Ces trois départements, on retrouve pratiquement l'agriculture française sur ces départements-là. Hormis l'agriculture d'outre-mer, mais bon, ça se comprend. Parce qu'on a de tout. Je dirais l'Ain est un peu plus en grande culture que l'Isère et le Rhône, mais je dirais on a des typologies d'exploitation relativement semblables. Parce que d'abord, sur ces trois départements, on est quand même proche de métropole. Donc ça veut dire déjà depuis de nombreuses années un travail de développement de vente directe. On a aussi des cultures très typées. Le Rhône avec la viticulture, un peu sur l'Ain aussi, sur l'Isère un petit peu. L'Isère, nous, on a l'arboriculture avec par exemple le noyer qui est très très spécifique. L'aviculture, production de volaille, par exemple tout ce qui est poulet de Bresse, c'est sur l'Ain. Donc voilà, on est aussi sur des départements où on a des productions sous signe de qualité. C'est-à-dire que déjà, je dirais, nos prédécesseurs ont voulu réfléchir sur comment valoriser un produit avec un cahier des charges et une qualité. Donc je pense que c'est un peu ça, nos points forts de nos départements, et qui fait qu'on a rarement des crises globales de l'agriculture sur les départements. C'est plutôt de temps en temps une filière ou l'autre qui est plus concernée.
Un mot peut-être aussi sur les conditions météo qu'on a vues ces dernières semaines. Est-ce que du retour que vous avez, puisqu'on rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture de l'Isère, est-ce que ça a impacté les agriculteurs?
Ceux qui ont vraiment eu des problèmes d'eau et d'inondation, là oui. C'est plutôt dans le nord de la région. Ensuite, c'est les fortes précipitations d'eau et puis de neige que l'on a en montagne est quand même bien nécessaire du fait qu'on vient de passer quand même plusieurs années de très sèches, et notamment en 2017. Et on avait besoin réellement de réapprovisionner nos sources, nos rivières, nos ruisseaux. Et donc c'est quand même un bien salvateur par rapport à la problématique de l'eau. Alors il est vrai qu'après, sur des zones de montagne, il y a pu y avoir des effondrements, des routes effondrées et tout ça. Il y a pu y avoir des zones inondées. Mais bon, malgré tout ça, heureusement qu'on a eu toutes ces précipitations d'eau durant cet hiver et que l'on a encore aujourd'hui. Parce qu'on a eu vraiment un déficit hydrique depuis plusieurs années et plusieurs hivers qui posent des problèmes. Maintenant, il faudrait qu'on ait un peu du froid. Ça serait l'idéal pour finir cet hiver.
Quel est peut-être le dernier mot, le geste politique peut-être que vous aimeriez voir dans le cadre de ce salon de l'agriculture, ou le geste même des consommateurs? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce salon?
Tout simplement une chose, c'est que réellement il y ait ce qu'on est en train de faire, qu'on ait un dialogue constructif entre consommateurs et agriculteurs, parce qu'on a plein de choses à voir en commun. Souvent on essaie de nous opposer, mais je pense qu'on a plutôt à s'allier pour justement défendre une spécificité française qui est bien manger. Moi, je pense que c'est ça le plus important.
Merci beaucoup, Jean-Claude Darlet. On rappelle donc que vous êtes président de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Et je vous souhaite d'avance un très bon salon, du coup.
Merci beaucoup. Plaisir de se voir sur le salon.